Salut chers auditeurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Danilo. Danilo, c'est un gars que j'admire beaucoup. Je trouve que ce qu'il réussit à faire avec son agence, avec DHS Digital, tout le contenu qu'il crée et son super podcast aussi dans lequel j'ai eu l'occasion d'être invité, permet vraiment à tous les e-commerce, à tous les business de se développer. Dans cet épisode, Danilo va te parler un peu de scaler tes campagnes méta. Au-delà de la créa visuelle, c'est vrai que la créa c'est souvent vu comme le pilier central de ta stratégie méta, mais c'est pas forcément le seul endroit où tu peux aller prendre de la performance pour ton e-commerce. Donc j'espère que cet épisode te plaira. Merci encore à Danilo d'avoir pris le temps de venir nous partager toute sa connaissance, tout son savoir sur le sujet. J'en profite avant de te laisser pour te demander de laisser un petit commentaire, un petit like, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur YouTube, pour soutenir le travail. Ça m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast. Donc merci beaucoup à toi et bonne écoute. Salut.
Salut Danilo.
Salut PB, salut Pierre-Baptiste.
Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. L'objectif de ce podcast, c'est parler de Meta Ads, donc Facebook, Instagram, pour ceux qui n'auraient pas suivi le changement de nom de l'entreprise.
C'est clair, hein. Ça fait plus d'un an maintenant.
Et ça fait déjà plus d'un an. Et là, l'idée, c'est qu'on va parler de créa visuelle. Mais avant de se lancer dans le sujet, j'aimerais bien qu'on puisse parler un peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter et peut-être nous présenter ainsi un peu ton parcours ?
Avec grand plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, comme d'habitude. Donc, je m'appelle Danilo Duchesne, je suis le fondateur de DHS Digital. Je suis spécialisé dans les publicités Facebook depuis plus de 5 ans maintenant. Donc, j'ai commencé à pratiquer ce métier un peu après la sortie de mes études, donc chercher un emploi. Et j'ai identifié des startups comme des environnements de travail qui pouvaient me plaire, m'intéresser, me challenger. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé une sorte de stage rémunéré dans lequel je pouvais pratiquer la publicité Facebook, la publicité Google et LinkedIn, donc c'était ce qui était écrit sur l'annonce. Et j'ai assez pratiqué ça pendant quelques mois chez Ubico. Donc c'est une startup qui faisait de l'autopartage, donc une startup française qui était au niveau de, je pense, une cinquantaine d'employés, mine de rien. Donc ils avaient quand même une bonne taille, ils avaient élevé des fonds. Ils avaient du budget à investir sur Facebook, sur Google, LinkedIn. Ils avaient été accompagnés par une agence avant, donc ils avaient des campagnes assez bien structurées. Et moi, quand je suis arrivé, j'avais un responsable marketing qui m'a mis sur les campagnes assez vite. Et après un mois et demi, j'étais sur les campagnes. Il y avait un truc comme 30 000 euros de budget par mois sur Facebook qui était dépensé entre les différents pays. Donc, c'est quand même des beaux budgets pour quelqu'un qui avait peu d'expérience. Et en fait, moi, je m'occupais vraiment de gérer les campagnes. Et après ça, je suis pas forcément resté dans cette startup là par simplement parce qu'on m'a pas proposé l'opportunité de rester dans cette entreprise là. Et entre temps, en fait, j'ai créé mon blog dans lequel j'ai commencé à partager du contenu sur les médias sociaux et un tout petit peu la pub Facebook. Le blog s'est développé, j'ai eu des personnes qui ont commencé à me contacter pour de l'appréciation ou de la formation, et c'est comme ça que je suis devenu freelance. Et puis après, bah, en tant que freelance, bah, j'ai pu proposer des prestations sur la pub Facebook, donc notamment de la gestion de campagne, de la formation, du conseil. Et de fil en aiguille, j'ai créé mon agence. Voilà.
C'est un parcours assez impressionnant parce qu'aujourd'hui, l'agence, c'est 10 personnes.
Ouais, c'est vrai, je n'ai pas précisé.
Ça fait 5 ans en gros que tu as lancé sur l'agence à peu près.
En fait, l'agence, je l'ai lancée en juillet 2019 et ça faisait un an et demi que j'étais freelance. Donc tu vois, ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis dans le milieu et que je suis indépendant. Et franchement, ouais, ça s'est bien développé. Après, on peut toujours faire mieux, mais franchement, je suis assez content. On a une bonne taille, on a une bonne équipe, on est bien structuré. On a accompagné des belles marques et on en accompagne encore des belles aujourd'hui. Donc c'est plutôt cool, ouais.
Et une question que je me pose, c'est du coup, tu as commencé ton blog quand tu étais encore du coup, dans ton
c'est ça.
Dans la startup, c'est ça ?
Bah, franchement, oui et non. C'est-à-dire que je l'ai créé en avril et j'ai commencé à publier en juin 2017. Et en juillet 2017, je n'ai pas été conservé au-delà de mon contrat de 6 mois. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire sur le blog toutes les semaines, des articles assez complets, assez longs. Je ne sais pas si tu as déjà été voir un peu la taille des articles, mais tu vois, c'est un peu ce qu'a fait la marque de fabrique Danilo, on va dire. Et après 6 mois, le blog, il faisait 10 000 visites par mois environ, ce qui était quand même correct pour quelqu'un qui n'a pas forcément
c'est impressionnant, hein,
beaucoup
même
de moyens.
Même e-commerçant, ça ne fait pas ça de loin.
C'est vrai.
Ah oui.
Ouais, bah voilà, donc j'étais content à ce niveau-là. Et comme je te dis, j'avais des demandes. J'avais des demandes alors que sur mon site, tu avais juste une page d'accueil, une page à propos, une page contact et la page blog, mais tu n'avais pas de page qui proposait de l'appréciation. Et c'est comme ça en fait que de fil en aiguille, comme je te disais, j'ai pu lancer l'activité de freelance avec voilà, un petit numéro de TVA en tant qu'indépendant complémentaire. Donc en Belgique, c'est comme ça que ça fonctionne quand on veut se lancer et qu'on n'est pas encore sûr de se mettre indépendant à temps plein, on va dire, principal. Et voilà comment ça a commencé. Et puis après, j'ai mis des services sur le site, j'ai mis un service de gestion de campagne. J'ai même mis un service de community management, mais j'ai vite constaté que ce n'était pas là où était ma force. Et donc, j'ai juste conservé la gestion de campagne, la formation et le conseil.
C'est quand même hyper intéressant. En fait, ce que j'aime bien aussi dans la démarche, c'est que assez tôt, tu t'es dit comment je fais pour partager du contenu, partager les connaissances que j'ai appris. Et surtout, à cette époque, il faut quand même aussi se rappeler que Facebook, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et ça avait peut-être pas la notoriété et ça avait pas lancé autant de marques que ce que ça a fait aujourd'hui aussi.
Non, c'est ça. Ça, franchement, ça, pour moi, à ce moment-là, c'était pas encore l'âge d'or de Facebook. On était en train d'y entrer. Donc, c'est ce que je te disais en off, que moi, je suis arrivé un peu au bon moment avec cette casquette de consultant spécialisé en Facebook Ads, parce que tu n'en avais pas tant que ça. Et Facebook commençait tout doucement à aider des marques à se propulser. Les DNVB étaient pas encore, on les appelait pas encore comme ça. Donc, les marques que tu connais, Digital Native Vertical Brands, marque D2C. Tu en avais qui commençaient à se lancer sur Facebook, qui avaient des résultats, mais ça restait quand même, je trouve, par rapport à maintenant, c'était jamais aussi élaboré, que ce soit les structures de campagne, les créas, les stratégies. La plateforme en elle-même n'était jamais aussi élaborée quand j'y pense. Elle était même plus complexe, je trouve, à gérer quand tu devais mettre en place une structure de campagne. Tu te retrouvais parfois avec 10 adsets dans lesquels tu allais tester des audiences assez fines, assez, pas fines, excuse-moi, j'ai pas le mot.
C'est précis, quoi.
Assez précise exactement, et dans lequel tu mettais vraiment, tu pilotais le budget au niveau de l'audience plutôt que de le gérer au niveau de la campagne comme tu le fais maintenant. Donc il y a plein de différences par rapport à maintenant, et comme tu le dis, franchement, c'était vraiment un autre Facebook par rapport à aujourd'hui.
Et du coup, de ce blog-là aussi, j'ai l'impression à décliner le podcast.
C'est vrai.
Est-ce que tu peux nous parler un peu pourquoi tu as lancé le podcast après le blog qui, quand même, en vrai, fonctionne bien parce que
Ouais, il
10 000
tournait bien.
visites pour un blog qui s'est lancé dans une niche, alors certes qui était en pleine croissance, mais c'était quand même une niche, c'est quand même des belles perfs, tu vois,
C'est des
pour
belles
il y a
perfs.
5-6 ans.
Bah, franchement, ouais, pour revenir là-dessus, donc le blog, il faisait 10 000 visites plus ou moins en janvier 2018. Et puis après, quand j'ai lancé le podcast en juillet 2020, donc quand même 2 ans et demi plus tard, il faisait ses 100 000 visites par mois, quoi, donc c'était énorme. Donc on était passé de 10 000 à 100 000, donc ça marchait plutôt bien. Aujourd'hui, mon blog fait moins de visites, il fait peut-être 60, 70 000, donc tu vois, ça reste quand même correct, sachant que je publie pas tant que ça dessus. Et pourquoi j'ai lancé le podcast? Que je voulais me diversifier. En fait, ça faisait déjà ça faisait tout juste 3 ans que j'écrivais sur le blog. Je trouvais ça déjà très sympa. Mais comme toujours, tu as un peu une lassitude et tu te dis, qu'est-ce que je rate en n'étant pas sur l'audio, en sachant que c'est un format qui commence à bien se développer et qui s'est encore plus développé dans le futur. Donc il y avait un peu cet aspect diversification, mais aussi être à l'écoute de ce que moi j'ai envie de produire comme contenu. Et l'audio, j'avoue que ça m'a beaucoup attiré. Parce que je passe un format qui est assez facile à mettre en place, c'est une conversation généralement, t'as pas besoin de beaucoup de matos pour réaliser un podcast, alors que tu vois que la vidéo, on a pas mal de caméras, il faut installer tout ça, et ça me paraissait quand même plus compliqué à gérer par moi-même que le podcast, où là en fait j'ai juste été aidé par mon cousin qui fait le montage, mais le reste, voilà, je le fais moi, j'ai mon micro, j'enregistre assez facilement. Et je dirais la troisième raison, c'est le réseau. C'est que c'est une façon assez naturelle d'aller chercher des gens que tu admires, que tu respectes, ou même des potentiels clients auxquels enfin tu pourrais pas forcément accéder sans leur dire écoute, viens sur mon podcast discuter avec moi de publicité ou d'acquisition ou d'e-commerce. Je te pose des questions, ça te met en valeur, et puis après on en fait un épisode et tout le monde est content. Donc tu vois, ça c'était une manière aussi de faire mon réseau. Et franchement, ça a bien marché. J'ai eu des clients qui sont venus par le podcast et vraiment sans même que je leur demande. Enfin, quand je propose, pardon, un audit, une prestation, qui m'ont dit à la fin, si tu veux, ce serait cool de voir ce qu'il est possible de faire ensemble. Donc, tu vois, à la fois niveau réseau, c'était bien, mais aussi pour l'agence, c'était bien aussi.
Et tu t'es pas confronté justement dans tes invitations parfois à avoir des réponses où on sentait que les gens en face pouvaient penser que tu étais vraiment dans un travail de prospection. Je te dis ça parce que assez tôt, j'ai voulu inviter tu vois, des marques ou des responsables e-commerce ou un peu des experts, tu vois, dans plein de domaines où j'avais trouvé que, je sais pas, telle marque, elle avait vachement bien réalisé telle ou telle chose et j'aurais, tu vois, aimé les inviter sur le podcast. Et en fait, assez tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de méfiance par rapport à ces invitations, en mode oui, il vient pour me prospecter, le podcast est une bonne excuse
C'est
et
vrai.
c'est tout, quoi.
Ah, t'as senti en fait dans les réponses que tu recevais, genre ils te disaient oui ou non pour venir?
En fait, soit c'était un peu des réponses de Normand en mode merci, mais pas maintenant.
Moi j'ai eu ça aussi, ouais. Les merci, mais pas maintenant, j'ai déjà eu. Moi je le prends pas mal comme dit ça, mais c'est une façon, comme tu dis, gentille de dire écoute, ouais, le podcast ça a l'air intéressant, mais voilà, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse. Mais franchement, dans la grande majorité des cas, pour répondre à ta question, j'ai pas trop eu le cas. Mais je l'ai eu encore cette année. J'ai eu quand même eu 3-4, je vais pas dire des refoules, mais du type écoute, là, j'ai pas du tout le temps de faire le podcast avec toi. Mais voilà, on sait tous qu'on a 1 heure à consacrer pour un podcast. Donc j'avoue que c'est difficilement croyable. Bon, je parle avec honnêteté. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la vie. Et quand tu connais pas quelqu'un, parfois, et encore, non. Ceux qui m'avaient dit non, sur le coup, je les connais un peu. Donc c'est pas comme si j'étais un inconnu. Mais je pense qu'il y a une méfiance. T'as raison. En tout cas, moi, ma philosophie, ça, je peux le dire, c'est de ne jamais justement donner l'impression à mon invité que je l'ai invité pour éventuellement, après, comme tu dis, lui vendre ma prestation ou lui vendre mon agence. Je ne le fais jamais. Je ne trouve même pas ça respectueux pour la personne, que ce soit en plein milieu, à la fin ou au début, de dire tiens, est-ce que tu as une agence qui s'occupe de théâtre ? On sait tous que oui. Donc, je ne pose pas la question. Mais par contre, si la discussion s'enclenche, là, j'aurais tendance à dire comment est-ce que je peux t'aider ? Comment est-ce qu'on peut. Est-ce que tu as besoin de conseils sur certaines choses ? Et là, bien naturellement, je propose de l'accompagnement ou un audit.
Ouais, mais ok, ça fait sens. Bah, écoutez, si vous êtes e-commerçant et que vous nous écoutez et que vous avez des belles histoires à raconter, vous pouvez nous contacter. On sera ravis de vous accueillir sur le podcast sans arrière-pensée, surtout. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation. C'est cool de voir aussi, tu vois, qui se cache derrière les experts qu'on peut inviter sur nos podcasts, etc. Je te propose qu'on passe un peu dans le sujet de cet épisode. L'objectif de cet épisode, c'était de parler ensemble de créa visuelle dans la performance de Meta Ads. Ouais. En fait, j'ai souvent tendance, moi, à comparer, tu vois, on me pose souvent la question, tiens, je vais prendre une agence qui fait un peu de social ads, un peu de Google ads, qui fait un peu de tout, tu vois.
Ouais.
Et j'ai souvent tendance à leur dire, attention, les social ads et Google ads, ce sont des clés de succès qui sont très différentes.
Ouais.
Ce que je veux dire par des clés de succès, c'est que les raisons qui vont faire que vous allez avoir du succès sur les social ads et les raisons pour lesquelles vous allez avoir du succès sur Google ads, c'est pas du tout les mêmes.
Mm.
Du coup, j'ai souvent tendance à dire que la clé de succès sur Facebook, enfin pardon, sur Google, ça va être le tracking, la structure du compte et la manière dont, tu vois, la stratégie a été pensée. Là où le succès pour moi des social ads, elle est vraiment liée à la créa visuelle et du coup à la capacité à avoir dans ton équipe quelqu'un qui fait des créas performantes, des vidéos, des photos, enfin peu importe le type de créa. Et je sais qu'il y en a qui vont encore plus loin, qui vont dire 80% de la performance de Google, ouais. De Facebook et de Meta Ads, c'est que de la créa. Et en fait, 20%, c'est savoir jouer avec l'interface. Je pense que tu as un avis totalement différent et c'est la raison pour laquelle je t'ai invité aussi dans cet épisode.
Ouais.
Quel est ton point de vue sur le sujet ?
Ouais, comme tu dis, j'ai un avis, je ne peux pas dire totalement différent, mais quand même qui est pas celui-ci de dire que 80% de la perf de tes campagnes est drivée par les créas, parce que ce n'est pas vrai. Puisque quand tu regardes, quand tu lances une campagne, tu as plein de choses qui entrent en jeu. T'as le paramétrage, ok, donc c'est vrai que de moins en moins le paramétrage il a une importance, mais tu le sais, il faut bien structurer un compte. Sur Facebook c'est pareil, t'as des structures type, on en parlera après, donc structure, audience, c'est vrai que les audiences sont de plus en plus larges, donc je pense pas que c'est là où tu fais le plus de choses au niveau optimisation. Ensuite t'as la stratégie publicitaire, donc pour moi ça représente plus ou moins 30-40% du travail, c'est qu'est-ce que je vais dire, à qui, quelle va être mon offre, quel sera mon tunnel de vente. Donc c'est quand même beaucoup beaucoup de choses à réfléchir en amont. Parfois le client sait déjà exactement comment vendre son produit, avec quel mécanisme de vente, quels sont ses produits best-sellers, etc. Mais c'est pas toujours le cas, donc il faut travailler ça en amont. Et puis après tu commences à entrer dans ce dont tu parlais, c'est la créa. Dans la créa tu as deux choses, tu as les créas en elles-mêmes, mais aussi la stratégie créative, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas dire, dans quel format. Et puis après, à quoi vont ressembler tes créas ? Est-ce qu'elles vont attirer l'attention ? Est-ce que ça va être des visuels, des vidéos ? Ça va être quoi les 3 premières secondes de la vidéo ? Et enfin, qu'est-ce qui est dit dans la créa ? Est-ce que le message est bien compris ? Donc tu vois que c'est beaucoup de choses. Et pour moi, ça représente 40% du travail. Donc tu vois, pas vraiment 80% de la performance, mais c'est 80% pour moi du travail du media buyer. C'est le travail de stratégie créative et de production de créa performante. Après, ce que je peux te dire, c'est qu'une étude de Facebook a quand même montré que ils ont étudié, je sais pas, un certain panel d'entreprises aux US qui dépensent des dizaines de milliers, je sais plus si c'est millions, je pense que c'est des millions d'euros ou centaines de milliers d'euros en publicité Facebook. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que 35% de la performance dépend des créas, dans le sens où ils ont dit que tu avais un incrément, quoique j'ai un petit doute, je pense qu'il y a... Non, c'est que quand tu as des créas qui ne sont pas efficaces et des créas qui sont efficaces, t'as 35% de différence au niveau de la performance. Si je te dis pas de bêtises, c'était ça qu'ils ont dit. Donc tu vois, c'est pas 80% non plus.
Ok, ouais, en fait, le fait d'avoir une meilleure créa, c'est 35% de plus, ce qui est...
Je pense que c'était ça.
Ce qui est quand même 35% de performance en plus. Hein.
Je pense que c'était ça. Je te dis pas de bêtises. J'ai un petit doute, mais oui, c'est ça. 35% le plus efficace avec des meilleures créas. Ouais.
Il y avait un sujet que j'avais trouvé intéressant dans un des épisodes que tu as fait justement sur ton podcast,
ouais.
Où tu parlais de ça et tu disais aussi que dans cette étude-là, en fait, il y avait 57% des performances qui venaient juste déjà de pas les ads en elles-mêmes.
Pas les ads en elles-mêmes, ouais.
Et je trouve ça assez intéressant déjà de repositionner un peu l'église au milieu du village sur ce sujet, parce que c'est la même chose sur Google en réalité. C'est que finalement, le truc le plus important, c'est déjà ton produit. Est-ce qu'il y a un market fit ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent l'acheter ? enfin avant même tu vois d'avoir les plus belles créas, tu vendras avec les meilleures pubs Facebook, tu vendras pas un produit nul
comme toujours. Et pour c'est autant, la base. J'en ai, j'ai oublié de te le dire, mais ça, ça fait aussi partie de la stratégie, c'est promouvoir les bons produits quoi.
Et ouais, et c'est-à-dire d'ailleurs pour autant tu peux avoir des produits un peu nuls avec un marketing, enfin pardon, des produits très bien avec un marketing un peu nul, et en fait ça peut
et ça marche quand même. Et ça marche quand même. Le meilleur c'est d'avoir un très bon produit qui peut être mass market et qui est bien marketé. Genre un exemple que j'aime bien, c'est My Variation, c'est les brosses à dents électriques. Ça touche tout le monde doit se brosser les dents. C'est hyper bien marketé. Le prix de la brosse à dents, il est pas donné quoi. Je pense qu'elle est un peu plus de 100 €. Et t'as l'impression que c'est un bijou, le truc, c'est hyper beau, c'est hyper bien vendu, c'est limite une révolution dans la façon dont c'est présenté. Mais ça reste une brosse à dents électrique, il faut se le dire. Et pourtant, ça se vend super bien et c'est top.
Ok, ouais, hyper intéressant. Ce que je te propose maintenant qu'on a un peu repositionné. Ces histoires là autour de la créa qui n'est pas finalement que le point le plus important. Ça c'est bon, on a réglé une petite partie du problème. Maintenant la question c'est toujours pareil, ce podcast il se veut actionnable pour nos auditeurs. Ce que je peux te proposer peut-être, c'est qu'on puisse dérouler ensemble une sorte de plan d'action.
Ouais.
Dans lequel on va essayer de permettre à nos auditeurs justement de construire une stratégie. Ouais. Meta Ads qui soit un peu plus haut de gamme que juste dire je vais faire des belles images et des belles vidéos.
Ok.
Ce que je te propose peut-être, c'est qu'on puisse commencer sur la partie technique. On disait que tout à l'heure ça valait à peu près pour 20% à peu de choses près de la performance. Pour toi c'est quoi un peu les fondamentaux sur la partie technique?
Ouais, moi j'en vois deux. T'as le tracking, la structure des campagnes, en sachant que dans la structure j'inclus le nombre de campagnes que tu vas avoir, les objectifs, les audiences, qu'est-ce qui va être mis dans ces campagnes-là, la stratégie budgétaire, donc c'est-à-dire combien j'investis en acquisition, combien en retargeting, et les créas, le nombre de créas que tu vas avoir dans les campagnes, et qu'est-ce que tu... Enfin, après, on va l'anticiper, c'est la stratégie créative, mais globalement, c'est ça que j'inclus. Donc, dans le tracking, je pense que tu le sais aussi bien que moi, il faut que ton tracking soit bien installé en server-side, idéalement, sur ton site, que tu aies tous les bons événements de conversion pour bien suivre ton parcours d'achat. Donc, c'est-à-dire, tu prends un e-commerce, ça va être, tu vois, tu peux arriver sur la page d'accueil, puis après, tu vas sur une page produit, ensuite, tu ajoutes un produit au panier, tu inities un paiement et tu termines par un achat. Tu as quand même besoin que tous ces événements-là soient traqués, que les événements aient une valeur précise. Donc, dans les achats, il faut qu'on sache combien a rapporté l'achat. Bon, je pense que c'est assez basique. Donc, sur Facebook, il y a deux types de tracking. Il y a le tracking via le pixel, mais qui va normalement bientôt disparaître avec la fin des cookies tiers sur Google, et le tracking par server-side, où tu vas envoyer l'information directement à Facebook via ton serveur. Donc, c'est un tracking un peu plus compliqué à installer, mais comme tu le sais, sur Shopify, etc., c'est un peu plus facile de le faire parce que c'est quelques cases à cocher, mais ça reste pas optimal. Donc, je dirais, premier point, bien régler le souci du tracking. Et puis après, au niveau de ta structure de campagne, là, ça dépend. En fait, ça dépend. Est-ce que tu vends un produit, est-ce que tu en vends 10 Si tu en vends 10, c'est que c'est plus ou moins pour potentiellement le même type de client, c'est-à-dire la même clientèle. Je sais pas, tu t'adresses à des femmes enceintes et tu as 10 types de produits pour elles qui peuvent l'aider à résoudre ses problèmes. Moi, j'aurais tendance à tout faire dans la même structure de campagne. Par contre, si tu commences à avoir des produits par persona, là, tu pourrais être tenté d'avoir des campagnes par persona. Mais en règle générale, la structure la plus basique sur Facebook, c'est d'avoir une campagne d'acquisition et de retargeting. Tu peux aller plus loin en ayant une troisième campagne en retargeting, mais qui est dynamique, dans laquelle tu vas simplement recibler les gens qui ont ajouté un produit au panier, mais qui ne l'ont pas acheté. Et tu vas avoir peut-être un message de rappel ou un code promo. Donc, tu as ces trois campagnes-là. Tu peux avoir une quatrième campagne de testing si tu veux commencer à tester des créas, des axes. Tu peux avoir une cinquième campagne Advantage Plus si tu veux scaler ou si tu veux vraiment... tu sais que ton compte, il marche bien, tu as une certaine rentabilité, tu veux un tout petit peu accélérer avec tes meilleurs contenus, tu vas les mettre dans Advantage Plus Shopping, qui est une sorte de performance max, mais un peu différente, mais en tout cas qui vraiment utilise de l'intelligence artificielle, du ciblage large et qui fait le travail à ta place. Donc, tu vois, tu as ces cinq campagnes-là qui sont pas mal pour démarrer. Mais après, comme je te dis, tu peux le complexifier selon que tu aies des gammes de produits qui vont s'adresser à des personas un peu différents. Voilà. Et enfin, dernièrement, pour le budget, je pense que c'est important de le mentionner, c'est que normalement, tu es censé avoir 70% de ton budget en acquisition au minimum. Après, tu peux avoir un peu moins ou un peu plus. Et 30% en retargeting. Donc voilà.
Okay, ouais, donc on a vu le truc un peu global. Est-ce qu'il y a, il y a des bonnes pratiques aussi en termes d'optimisation des campagnes et de l'apprentissage? Je sais que par exemple sur Google, on
Ouais,
essaie toujours
pardon.
d'atteindre un certain nombre de conversions à 30 jours par campagne
Ouais, je.
pour essayer de maximiser un peu l'apprentissage. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques comme ça aussi sur Meta?
Ouais, les bonnes pratiques sur Meta, en gros, c'est de sortir de la phase d'apprentissage et c'est donc d'avoir suffisamment de conversions par semaine pour en sortir. Donc, normalement, tu es censé en avoir en moyenne 50 conversions par semaine. J'ai déjà fait des podcasts, des articles là-dessus, des posts. Je trouve que c'est pas totalement vrai. Tu peux en sortir avec 30, parfois 35. Franchement, c'est dur à dire, mais je pense qu'avoir au moins 3-4 fois ton CPA par jour, par audience, c'est déjà pas mal. Donc, si en gros, tu as un CPA à 15 euros, tu es censé avoir 45 à 60 euros par audience. En sachant que nous, nos campagnes, on n'a jamais plus de 2 ou 3 audiences, à moins que ce soit vraiment un gros compte, tu vois que tu arrives à t'en sortir avec des budgets à 100, 150 euros par campagne d'acquisition. Et en retargeting, nous, on n'a pas tendance à respecter cette règle-là. On veut juste avoir suffisamment de budget pour avoir au moins une ou deux conversions par jour, au minimum, en retargeting. Voilà ce que je peux te dire. Et par contre, j'ai oublié un truc pour la structure des campagnes, je m'excuse, c'est que c'est bien d'avoir aussi une campagne de rétention. Donc pour tes clients, et surtout si tu as un business, typiquement en complément alimentaire, tu sais que les gens ils vont finir par réacheter une cure 2 à 3 mois après l'avoir acheté la première, c'est bien d'avoir une campagne qui va leur reproposer une nouvelle cure ou une autre cure complémentaire.
Est-ce que ça, tu peux justement régler que certaines audiences, elles ne soient touchées qu'à partir de X temps
Ouais, tu peux le
après?
faire. Parce que tu utilises des exclusions et tu dis, tiens, moi j'exclus tous les acheteurs, tous ceux qui ont acheté il y a 45 jours ou il y a 30 jours, et tu mets tout ton fichier client ou tu mets tout ce qui est traqué via le pixel, ce que tu peux aller jusqu'à 6 mois.
Comment tu gères cette notion d'acquisition et de remarketing? Alors, tu as parlé tout à l'heure des répartitions de budget, mais tu sais, parfois, d'un point de vue business, c'est pas toujours pertinent de repayer de la pub sur des gens qui vont faire du réachat, là où tu as la possibilité via des outils type CRM, etc., qui vont coûter bien moins cher d'envoyer un SMS ou d'envoyer des emails qui vont te permettre en fait, potentiellement de reconvertir à des niveaux plus importants sans forcément dépenser le prix d'une pub Facebook. Comment tu gères ça
Moi, ce que j'allais dire, c'est que par rapport à ça, déjà, il y a dans la structure de campagne, c'est important de mentionner que d'une campagne à une autre, tu dois faire des exclusions. Donc, sur les campagnes d'acquisition, tu es censé exclure tes visiteurs et les personnes qui ont déjà acheté, et ton fichier client, et éventuellement ton fichier newsletter. Si tu veux vraiment être bien complet pour avoir des gens qui ne te connaissent pas. Et ce que j'allais dire pour la campagne de rétention, c'était bien ça ta question, c'est que nous, on n'aura pas tendance à investir un gros budget. Généralement, même pas 5% du budget total. Donc, si tu as un budget à 100 euros, tu vas mettre juste 5 euros pour la campagne de rétention. Et à ce niveau-là, généralement, ça te fait pas une trop grosse répétition sur cette campagne-là. Et tu n'as pas le sentiment de dépenser ton argent dans le vent à force de montrer un message trop de fois à des gens qui, comme tu dis, pourraient avoir reçu un email et d'autres communications par SMS.
Ok, ouais, très clair. Écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la partie technique. De toute
Ouais.
façon, n'oublions pas, hein, ça représente que 20% finalement de ta performance. On va passer sur les sujets peut-être
Ouais.
un peu plus importants. Alors, faut pas les négliger pour
Faut
autant, hein.
pas, c'est ça que je veux dire, faut pas les négliger. Je trouve que ouais, c'est 20% de la performance, mais c'est juste que ce travail-là, ça doit être fait par des experts et par des gens qui s'y connaissent bien, et il faut pas faire n'importe quoi. Mais une fois que c'est en place, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu vas pas passer ton temps à retravailler. Enfin, la structure, une fois qu'elle est bien fixée et que tu as tes audiences qui sont larges, tu vas pas changer ça tous les jours, quoi. Donc voilà.
Ok, très clair. Le deuxième point qu'on devait voir ensemble, et qui là est plus proche des 40% à peu près
Ouais.
de la performance sur MetaAds. Alors attention, hein, ces pourcentages, ils sont
Ouais,
approximatifs,
c'est
hein,
moi qui ai
c'est.
juste qui l'ai donné comme ça, mais je pense vraiment que c'est plus ou moins ça, quoi. Je pense que déjà, 60% du taf, ça va être vraiment ce qu'il y a dans tes campagnes, donc à la fois la structure, les audiences, le tracking aussi, on va dire ça comme ça, et la stratégie créative et les contenus qu'on va avoir.
Et du coup, cette partie-là, c'est plutôt la stratégie créative et la
Ouais.
stratégie de contenu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Parce que c'est quand même un mot, tu as des termes un peu génériques.
Ouais.
C'est quoi une stratégie de contenu, pour comprendre?
Pour moi, dans Facebook, c'est vraiment le fait d'aligner un message publicitaire en fonction du parcours client. Parce que comme tu le sais, selon que quelqu'un connaisse ta marque ou ton produit, tu vas pas t'adresser de la même manière à une autre personne qui, justement, ne connaît pas du tout ta marque, ne sait même pas qu'il y a un problème. Donc, par exemple, si on reprend les compléments alimentaires que j'aime bien, tu as beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont besoin de compléments alimentaires parce que ils pensent qu'ils ont déjà tous les nutriments nécessaires dans leur alimentation, mais ils se rendent pas compte qu'elle a été appauvrie par la culture, l'agriculture intensive, tu vois. Et donc déjà, repositionner le problème, c'est un truc qui est important. Et tu vas pas le faire à n'importe quelle audience, tu vas plutôt le faire à des gens qui ne te connaissent pas. Et donc du coup, tu auras tendance à avoir des messages plutôt orientés sur les problèmes et les solutions possibles à ce problème en acquisition. Alors qu'en retargeting, tu auras plutôt tendance à axer ta communication sur des bénéfices, de la preuve sociale, de la réassurance. Donc c'est pour ça que tu vois, c'est vraiment aligner bien ton message publicitaire selon la température du tunnel, donc ton parcours d'achat, pardon. Et généralement, nous, on va dire qu'il y a ben, les gens qui ne te connaissent pas, donc les personnes qui sont en phase de sensibilisation. Ensuite, tu as la phase de considération, donc c'est les gens qui commencent à te connaître, connaître ta marque, connaître ta solution, donc tu dois les éduquer un peu plus et les familiariser avec ce que tu fais. Et enfin, les gens qui sont en phase de décision, donc vraiment tunnel de vente basique, qui te connaissent bien, qui connaissent ton produit, qui peut-être connaissent aussi un concurrent similaire, mais qui sont pas, ils n'ont pas encore passé à l'action parce que ben, ils ont des doutes ou ils n'ont pas encore eu ce déclencheur qui fait qu'ils ont acheté. Et donc du coup, ben, avoir des contenus qui vont parler ben, à cette même personne à différents moments dans son parcours d'achat, c'est ça pour moi la stratégie de contenu. Mais après, tu as à la fois le format du contenu et le message. Donc le format, ça peut être pas seulement une vidéo, un carrousel ou une image, mais aussi est-ce que ça va être un UGC ? Est-ce que ça va être, si je parle des bénéfices, est-ce que je vais plutôt utiliser par exemple une photo du produit ou le produit qui est en situation où il est utilisé par une personne, ou est-ce que je vais montrer le produit avec du texte ? Enfin, tu vois, c'est aussi ça, c'est le format, c'est la mise en forme, à quoi va ressembler ta publicité. Donc voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Après, je ne sais pas si tu veux que je rentre plus dans les détails sur la strate de contenu, est-ce que tu peux, quel message tu vas pouvoir adresser à l'audience selon le parcours du client. Mais voilà, je pense que ça, ouais, peut être intéressant.
Ça peut être intéressant de donner quelques exemples de choses que tu vas travailler justement auprès d'une cible, par exemple, qui ne te connaît pas du tout.
Ouais.
Et puis après, auprès d'une cible qui commence un peu plus à te connaître et celle qui te connaît déjà. Tu vois, c'est quoi les types de messages qu'on pourrait imaginer ? Alors évidemment, ça va changer hein, d'une marque, ouais, à l'autre, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ça permettra aussi à nos auditeurs de se projeter dans leur propre entreprise, dans leur propre business, savoir un peu ce qu'ils pourraient raconter, quoi.
Ouais, ok, merci. Donc du coup, pour la phase de sensibilisation, donc les gens qui ne te connaissent pas, il faut savoir que c'est quand même la grosse majeure partie des gens à qui tu vas t'adresser sur Facebook, parce que tu vas créer de la demande. Donc ces messages-là sont très importants, il faut les travailler, il faut les tester. Donc ça va être principalement deux types de messages, orientés pain point, donc problème, donc c'est-à-dire vous avez un problème, on vous adresse la solution, ou alors directement, on parle de la solution. Tiens, on a des compléments alimentaires, un pour le magnésium, un autre pour le multivitamine, un autre pour les premières articulations. Donc tu vois, tu peux directement entrer dans le vif du sujet, ou alors tu peux faire vraiment la stratégie où tu fais entrer les gens dans ton funnel en leur présentant une problématique à laquelle ils n'ont pas forcément pensé. Donc ce que je disais tout à l'heure, par exemple, peut-être avec une vidéo d'une minute où tu vas expliquer pourquoi aujourd'hui l'alimentation elle est plus comme elle était il y a 30 ans ou 50 ans, et qui fait qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir tous tes besoins en vitamines, en minéraux, tu as besoin d'avoir des compléments alimentaires en plus. Et donc, tu pourras avoir une vidéo où tu as le fondateur de la marque qui va s'exprimer, qui va nous dire pourquoi aujourd'hui l'agriculture, c'est les résultats de l'agriculture, pardon, sont appauvris. Tu vois. Donc, tu vois, ça pourrait être ces deux types de messages-là pour la considération, donc l'acquisition. La sensibilisation, donc l'acquisition. Pour la considération, là, tu pourras avoir plutôt des messages orientés éducation produit. C'est-à-dire, tu vas commencer à parler un peu plus de tes produits. Bah, tiens, nous, on a trois compléments alimentaires phares pour résoudre ce problème de vitamines, minéraux. On a du magnésium, du multivitamine et de l'oméga 3. Et là, tu vas un peu essayer d'éduquer par rapport à comment ont été faits ces produits, qu'est-ce qu'ils contiennent et qu'est-ce que toi, tu peux en retirer du point de vue bénéfice en tant que personne. Tu peux aussi avoir des messages orientés communauté social proof, donc c'est-à-dire peut-être présenter le fait que certains sportifs utilisent ces compléments alimentaires-là et ils ont des résultats, ou des personnes dans la vie de tous les jours qui ont récupéré la forme grâce à ces compléments alimentaires. Ça peut être sous la forme d'un avis, d'un UGC, donc c'est là que je te dis que le format va varier. Et enfin, en phase de décision, là, tu pourrais plutôt être orienté sur des messages de réassurance ou des messages de rappel avec une offre. Donc, généralement, c'est ce que nous, on fait. Ou tu peux faire, je réfléchis à comme ça, donc réassurance, offre. Preuve sociale, un tout petit peu, mais ça va un peu dépendre en fait du produit, de si on peut ajouter une autre forme de preuve sociale qu'on n'aurait pas utilisé en phase de considération. Mais généralement, ça va être réassurance, c'est-à-dire sur... Ben, par exemple, moi, j'aimerais bien prendre des compléments alimentaires, mais ce qui me bloque, c'est le prix. Ce qui me bloque, c'est le fait que j'aime pas les gélules. Ce qui me bloque, c'est le fait que j'ai pas le temps. Enfin, tu vas essayer vraiment de casser des objections par rapport à l'achat. Et enfin, moi, je te dis le message de type rappel, simplement parce que les gens, des fois, ils oublient. Ils oublient d'acheter, donc tu vas les relancer, soit avec une offre, soit avec un simple rappel. Voilà globalement moi ce que je te propose en termes de message publicitaire. Je sais pas si ça fait sens, t'as des questions, si tu veux rebondir.
Non mais c'est c'est intéressant. Je pense que ça permet aussi à nos auditeurs de se projeter en mode les trois grandes étapes. C'est vrai que j'avais pas forcément pensé de cette façon là.
Ok.
L'exemple des compléments alimentaires.
Ouais, je le connais bien. Donc du coup je fais exprès de donner cet exemple là.
Ouais, c'est un bon exemple parce que effectivement je pense que c'est typiquement le genre de produit où la vaste majorité des gens n'ont absolument aucune conscience de l'importance que ça peut avoir pour eux. Et pour autant, il peut y avoir un intérêt. Alors, je suis loin d'être expert dans ce domaine, donc je raconterai pas plus d'histoires là-dessus, mais je pense que c'est un très bon exemple. Est-ce que sur la partie justement stratégie de contenu dont on vient de parler, est-ce que tu vois d'autres éléments dont on n'a pas parlé, sachant que là on a parlé en gros vraiment de quelle stratégie de créa en fonction des différentes étapes du tunnel. On a parlé un peu aussi de des différents types de créa, par exemple les formats, les UGC, les vidéos, etc. Est-ce que peut-être on peut étayer un peu sur ce sujet de format, parce que je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire.
Il y a plein de trucs à faire. Bah déjà les formats c'est infini. Enfin nous on a une bibliothèque de formats à l'interne chez DHS. On a peut-être une trentaine, voire peut-être 40 types de formats différents. Et encore une fois, c'est pas juste images, vidéos, carrousel, c'est vraiment pour chaque type de message qu'on a l'habitude d'utiliser, quel format on va avoir. Donc par exemple, pour le format, le message un peu orienté solution, éducation, on va avoir un format genre bénéfice avec des flèches. Je sais pas si tu as déjà vu sur Facebook les ads où tu vois un produit, un complément alimentaire encore une fois, et tu as des petites flèches qui vont illustrer un peu ce que contient le complément et quel est le bénéfice. Tu peux aussi avoir un autre format. Plutôt que de mettre des flèches, tu vas montrer le complément qui est utilisé par une personne et tu vas mettre sur le côté des petits V et des bénéfices. Donc tu vois, ça c'est un exemple de format. Ou alors tu pourras avoir une vidéo en motion qui va illustrer chacun des bénéfices. Donc tu vois, tu as plein de formats possibles. Après, tu en as des plus connus que d'autres. Donc les plus connus, c'est problème-solution. Donc ça peut être sur la forme d'un UGC ou d'une vidéo en motion ou même d'une image. Donc simplement... vous manquez d'énergie le matin, prenez du multivitamine parce que tu donnes directement la solution. UGC, ça va être... même un UGC, ce qui m'ennuie avec ça, c'est que c'est un format, mais en réalité, tu as plein de formats UGC. Tu peux avoir des formats UGC, problème-solution, témoignage, tu peux avoir des unboxings, tu peux avoir le TikTok response, c'est-à-dire que tu mets le widget commentaire sur TikTok et tu donnes une réponse... Je sais pas si t'as déjà vu ça. Réponse directement à l'oral en vidéo. Et t'as juste le widget qui s'affiche genre j'ai jamais le temps de prendre mes compléments alimentaires. Et puis après, t'as une personne qui va dire comment est-ce que je m'organise, quelle est ma routine. Tu vois, par exemple, pour revenir sur les bénéfices, il y en a un autre qui m'est venu en tête, c'est que plutôt que d'utiliser des flèches, tu pourrais dire trois raisons de prendre du magnésium. Et là, tu mets trois bénéfices du magnésium. Ou alors, tu pourrais utiliser autrement, tu pourrais dire trois fausses croyances sur le magnésium, qui est une autre façon finalement de venir intéresser des gens par rapport à ça, parce que tu viens casser des fausses croyances, qui fait que des gens ne vont pas forcément plus loin dans le processus d'achat parce qu'ils se disent, les compléments alimentaires, on m'a dit que ça ne servait à rien, on m'a dit les cures, ça ne marche pas, etc. Donc, tu vois, tu peux toujours trouver des messages adaptés et pour ce message, tu peux avoir plusieurs formats. Tu en as un autre qui marche bien aussi en acquisition, je peux le dire, c'est Founders Interview. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir le fondateur qui parle de sa marque et généralement, c'est une vidéo face cam qui peut être tourné avec une caméra ou alors le fondateur se filme avec son iPhone, donc c'est un peu ça qu'on voit le plus. Après tu peux avoir un truc un peu plus détourné comme si c'était un reportage ou quand tu as le fameux reportage brut que tu vas republier. Donc tu vois, tu as pas mal de façons d'utiliser le format Founders Interview et après tu as d'autres formats comme on l'a vu, tout ce qui est avis, témoignage, donc ça peut être sous différentes formes avec par exemple directement des avis, une note Trustpilot, ou alors tu as le produit et en dessous tu as un avis de quelques lignes, où tu peux avoir un carrousel avec à chaque fois un avis pour chaque produit. Tu as plein de trucs possibles et imaginables.
Ouais, c'est infini.
C'est infini. En fait, moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai des formats comme le tien, mais là, c'est un peu moins possible, c'est que je partage mon écran et en fait, je montre directement la bibliothèque qu'on a développée et je te montre un peu tous les formats et à quoi ça peut ressembler.
Ce qu'on peut faire, ce que je te propose, vu que je fais des récaps de tous les podcasts et tous les épisodes, pour tous nos auditeurs, vous pourrez retrouver sur le site e-commerçon.com le récap et on mettra tout simplement soit des screenshots, soit un lien vers cette...
Je vais voir si je peux fournir un lien, ça, il n'y a pas de souci. Quand tu publies, tu me dis et ça pourrait être utile.
Top, on va faire ça, je pense. Ce sera très cool. Y a un truc que je voulais quand même te poser comme question. Je pense que c'est assez lié à la partie stratégie de contenu et aussi un peu à la partie technique. C'est un peu la connexion entre les deux.
Ouais.
Parce que là, on a parlé beaucoup de format. Je pense qu'il y a aussi un point hyper important dans Facebook, c'est les emplacements. Je veux dire, stories, dans le feed, etc. Et j'imagine qu'en fonction de tes objectifs, tu ne vas pas forcément utiliser non plus les mêmes emplacements, ou peut-être que si, je ne sais pas. Comment tu vois les choses sur ça?
Franchement, aujourd'hui, la stratégie, elle n'est pas compliquée. C'est mettre placement automatique partout. Et en fait, tu adaptes ton format publicitaire aux différents placements. Donc, c'est-à-dire quand tu crées une vidéo, idéalement, tu dois l'avoir en 4/5. Donc, on aime bien ce format-là pour le newsfeed et le format 9/16. Cependant, il y a des nuances parce que je trouve que le format stories et réel doit être quand même traité séparément parce qu'une vidéo que tu as faite pour le newsfeed, même si tu vas changer le format, donc le mettre en vertical totalement, parfois, ce n'est pas naturel pour une stories ou pour un réel. Donc, tu dois quand même faire en sorte que ton contenu puisse être perçu comme une publication organique qui serait publiée en stories et réel. Et donc, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est faire une campagne stories où tu ne vas sélectionner que l'emplacement stories ou réel, ou alors tu mets juste stories et tu peux avoir une autre campagne en réel. Mais ce genre de stratégie-là devient intéressant quand tu commences à avoir un compte publicitaire bien, bien alimenté où tu as beaucoup, beaucoup de budget et tu peux te permettre d'avoir des campagnes qui vont être dédiées à un emplacement publicitaire. Hormis ce cas-là, moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Tu peux te mettre en placement automatique tout le temps. On a même testé parfois de battre l'algorithme, ça ne marche pas trop. Ou alors ça marche 3 semaines et puis après ça ne marche plus. Donc c'est-à-dire, tu vas regarder dans tes statistiques et tu regardes quel placement fonctionne le mieux. Et tu vas dire, tiens, ok, Facebook fonctionne beaucoup mieux qu'Instagram. Mais quand je dis beaucoup mieux, c'est genre 2 fois mieux. Les âges, c'est plutôt 25-45 qui fonctionnent. Donc tu fais une campagne, ce qu'on a déjà fait, hein. Placement Facebook, 25-45. Et mettons que c'est plus les femmes qui fonctionnent que les hommes, bah, tu mets les femmes. Oui, ça peut marcher, mais c'est pas scalable et ça marche pas toujours très indéfiniment, tu vois.
Ok, ouais, donc en fait, les placements, c'est quand même... aujourd'hui, tu fais de l'automatique. Je me souviens, à l'époque, on faisait beaucoup de Facebook, on mettait que du newsfeed, absolument aucun des autres canaux.
Non, franchement, il
ne
faut plus le faire. Parce qu'en fait, simplement, parce que déjà, le newsfeed, il est cher. Et en fait, tu perds plein d'opportunités. Et en fait, pour Facebook, c'est le plus... Déjà, il optimise en temps réel. C'est-à-dire que s'il voit... que dans le newsfeed ça marche pas, il va finir par arrêter d'investir dans le newsfeed pour mettre peut-être dans les stories ou pour mettre dans Instagram. Et en fait aujourd'hui ils ont tellement de placements publicitaires, aux dernières nouvelles je pense ils ont plus d'une vingtaine, mais c'est pas des petits trucs, enfin toi t'as quand même, si je prends le newsfeed, t'as plein de newsfeed en fait, t'as le newsfeed Facebook, Instagram, puis après t'as l'explorer Instagram, puis après t'as le newsfeed sur tout ce qui est vidéo, donc vidéo news, je sais plus comment ils l'appellent encore, enfin t'as plein de petits fils différents et c'est bien que quand tu vas dans les placements dans Facebook et que tu tapes enfin, tu cliques sur l'onglet fil, tu vas peut-être voir une petite dizaine, voire un peu plus de placements fil. Pour les stories, c'est pareil, t'as stories Facebook, Instagram, Messenger, puis après t'as stories Facebook, historique, stories Instagram, et réel Instagram. Donc ça veut dire que t'as 5 placements verticaux. Donc tu vois, ça s'enchaîne assez vite, et je trouve que se couper de l'un, ça peut quand même être un petit souci. Après, si vraiment tu constates que voilà, ça marche pas du tout pour 1 ou 2 placements, tu les retires et c'est bon. Mais généralement, c'est bien de se mettre en placement automatique.
Ok. Tant qu'on est sur la partie placement, petite question sur la partie Reels, du coup,
ouais.
Qui est assez proche de ce que propose TikTok en termes de format. Ton avis sur les Reels publicitaires, c'est quoi?
Ben, franchement, je n'ai pas encore trop d'avis, simplement parce qu'on ne l'a pas trop testé en placement séparé. Ce que je peux te dire, c'est que parfois, j'ai regardé les résultats publicitaires pour certains clients en Reels et j'ai vu qu'on avait des bonnes perfs, mais pas forcément bien meilleurs que le newsfeed. Et moi, mon hypothèse, c'est que le Reel, et je pense que Facebook l'a déjà dit, mais je ne sais plus dans quel cadre et si c'était lors d'une conférence ou pas, mais qui propose en fait, enfin qui conseille aux annonceurs d'avoir vraiment une campagne dédiée aux Reels dans laquelle tu vas justement utiliser des formats Reels que tu auras développé spécifiquement pour apparaître dans cet emplacement publicitaire.
Ok, voilà, très clair, ça marche. Je peux te dire. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de la partie stratégie de contenu. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter ou on est bon ?
Sur la partie strat, je regarde un peu, j'ai des notes, mais je vois pas ce que je... Enfin, il y a toujours des trucs à rajouter, mais là, sur le coup, franchement, on a bien défriché. Et vraiment, comme tu disais, je pense que le plus intéressant, c'est d'envoyer peut-être un petit récap de ce que j'ai raconté, soit en vous donnant quelques exemples en plus qui viennent de ma base de connaissances sur Notion. Et si j'ai d'autres exemples qui viennent de notre portfolio, je peux les mettre.
Ok, vas-y, c'est parfait. Je te propose du coup qu'on passe sur le dernier élément qui est plus la partie marketing. Sur cette partie-là, donc, qui représente aussi un élément assez important et qui est très connecté finalement à la partie contenu dont on vient de parler. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu ce qu'est cette partie marketing ?
Ouais, pour la partie marketing, moi je le vois en plusieurs points. Déjà la conversion sur ton site web, donc c'est vers quelle landing page tu vas rediriger les gens. Sur la landing page, est-ce qu'elle a bien tous les éléments de réassurance nécessaires ? Donc si tu renvoies vers une page produit, est-ce qu'elle contient des avis clients ? Est-ce que le produit est bien présenté ? Est-ce que tu as des belles photos ? Est-ce que les bénéfices sont bien mis en avant ? Est-ce que tu réponds bien à toutes les questions ? Est-ce que tu as bien mis en avant les conditions de livraison et de retour ? Donc déjà ça, c'est déjà pas mal. Après, je pense que j'avais noté un truc par rapport au... Laisse-moi regarder. Oui, est-ce que ton site est bien optimisé sur mobile ? Logique, sachant que ton trafic, 90% sera sur mobile, sur le trafic publicitaire, il faut que le site sur mobile soit limite plus facile d'utilisation que sur ordinateur. Sur mon podcast, j'ai reçu un mec qui donnait pas mal de conseils là-dessus. Et je trouve que ses conseils étaient bons. Je ne me rappelle plus de tout ce qu'il a dit, mais si vous voulez... allez sur mon podcast, le rendez-vous marketing. Et je pense que j'avais un épisode avec Jérémy Pinto de... tu connais peut-être, c'est...
Just.
Just, exactement. Et lui, en fait, il propose le paiement en un clic, mais surtout, il a comme des bonnes recommandations pour faire en sorte que la navigation sur mobile soit aussi fluide que sur un ordinateur. Et je trouve que c'était plutôt des bons conseils. Donc en bref, mobile, il faut y prêter attention et limite construire son site sur mobile. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a des marques qui ont plus de moyens, qui au-delà d'un certain stade, ils vont commencer à utiliser des solutions de développement plus avancées, comme le... Je ne l'ai plus en tête maintenant. 915, ils ont fait ça.
C'est headless, non ?
Le headless, exactement. Et ça te permet d'avoir plus de contrôle sur... Enfin, tu sépares le back-end et le front-end et ça te permet d'avoir vraiment un site plus optimisé sur mobile quand tu le développes. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième point marketing, c'est les offres. On n'en a pas parlé, c'est qu'est-ce que tu vas proposer ? À quelle phase, à chaque phase du tunnel, est-ce que tu vas avoir une offre pour l'acquisition, une offre pour le retargeting et une offre pour la rétention ? La rétention, ça peut être bêtement des nouveautés, ça peut être des upsells, des cross-sells, ça peut être un petit code promo spécial. Donc en tout cas, il faut réfléchir à une stratégie d'offre, c'est important. Et enfin, si tu ne peux pas faire d'offre toute l'année en acquisition, est-ce que tu peux avoir, à différents moments de l'année, capitaliser sur les moments forts de l'année ? Donc Noël, Black Friday, fête des mères, fête des pères, enfin tous les mois, il y a un événement, même la Saint-Valentin. Et figure-toi qu'on a déjà testé pour un ou deux clients qui ne sont pas concernés par la Saint-Valentin, des offres Saint-Valentin, et ça marchait. Hein. Alors okay. Que voilà, c'est pas un produit que tu vas offrir. Donc parfois, il faut pouvoir rebondir en fait sur l'actualité et sur le calendrier marketing, comme on dit, parce que tu as des offres quasiment toute l'année. Et le dernier point, c'est l'email marketing. C'est comment tu vas faire pour capter des adresses email. Donc soit tu peux utiliser la publicité Facebook pour capter des emails, mais une fois que tu as des gens qui t'ont donné leur email, qu'est-ce que tu fais ? Une fois que tu as des clients, qu'est-ce que tu fais ? Donc tu pourras avoir des flows, donc un flow de relance de panier abandonné, tout comme tu pourras avoir des newsletters assez récurrents dans lesquels tu vas éduquer sur ta marque, éduquer sur tes produits. Tu peux également avoir des flows spécifiquement pour tes clients, donc par exemple leur proposer des cross-sells qui vont faire sens. Donc je dis bêtise, pour les compléments, j'ai acheté du magnésium. Peut-être que je pourrais proposer également à mon client de la rhodiola et de la shwagandha parce que c'est des produits en fait qui, quand tu les prends en synergie, te permettent de mieux gérer ta fatigue et ton stress. Donc en fait, de base, le magnésium, ça t'aide à gérer tout ça, mais rhodiola et la shwagandha peuvent t'aider à avoir une meilleure synergie avec le magnésium. Enfin, pour te donner un exemple sur le cross-selling. Et puis après, tu peux upseller. Donc pour revenir sur les compléments alimentaires, si tu as acheté une cure de 1 mois, tu pourrais upseller la cure de 3 mois. En post-achat, peut-être un jour plus tard, dire tiens, si tu veux, on a une offre vraiment spéciale qu'on peut faire qu'une seule fois parce que on a réussi en quelque sorte à vous convaincre de prendre une cure d'un mois. Ça nous coûterait, nous financièrement, moins cher de vous proposer la cure de 3 mois avec une réduction de 20%. Profitez-en, c'est uniquement possible pendant un jour. Enfin, je dis bêtises, mais tu vois, tu peux faire des choses niveau email marketing pour augmenter la valeur vie de tes clients. Je pense que c'est tout.
C'est déjà pas mal. Ouais. Concernant l'email marketing, j'invite nos auditeurs à aller écouter. J'ai fait deux podcasts sur le sujet.
C'est vrai ? Cool.
Un avec Thibaut Sagnier de l'agence Emailio et un avec Hugo Nicole,
okay.
Qui est freelance en email. Et c'est des podcasts qui ont beaucoup plu. Donc pour les auditeurs qui ne l'auraient pas écouté, allez-y.
Ouais.
Je pense qu'il y a des belles choses à apprendre. On va vous apprendre justement les 5 flows indispensables d'un e-commerce. Je pense que c'est... Enfin, moi, je les ai mis en place sur mon propre site, tu vois.
Ok.
Mais franchement, ça marche très bien.
T'as vu une augmentation. Ouais. Mais moi, franchement, je reçois plein d'e-commerçants sur le podcast depuis un petit temps maintenant. Et en fait, cette année, j'ai pas mal posé des questions, genre c'est quoi votre challenge, c'est quoi les trucs qui marchent bien en ce moment. Tous me disent c'est l'email marketing. Enfin, franchement, j'ai même fait un post LinkedIn sur base de ce que moi j'ai retenu de tous les épisodes que j'ai fait ces 6 derniers mois. Et souvent, les quick wins ou les challenges, c'était email marketing au top, donc vraiment avoir bien réfléchi à mes flows, à quel type d'email j'envoie, et même avoir réfléchi un peu au copywriting. UGC, donc UGC ça marche plutôt bien en ads, donc je ne l'ai pas mis assez en avant, mais c'est clair que l'UGC c'est un format qui ne coûte pas trop cher et qui performe. Tu avais aussi je pense qu'il disait que la rétention était un enjeu, et après, je pense que j'avais un quatrième, j'ai déjà oublié. Le tracking. Donc beaucoup disaient le tracking c'est galère et on sait très bien que notre tracking sur Shopify ou sur PrestaShop il n'est pas optimal avec les modules, donc on a envie d'aller plus loin avec je ne suis pas un expert, mais avec des implémentations plus élaborées. Voilà.
Mais c'est extrêmement important. Enfin, en fait, les 4 sujets sont hyper importants, ouais. Et tu vois, à un moment donné, ils reposent aussi la question de l'acquisition, de la rétention,
ouais.
de comment on a des ads qui coûtent de plus en plus cher, donc finalement comment on optimise l'intégralité des étapes de notre business finalement pour que on optimise nos coûts à chaque étape et qu'on ne duplique pas le nombre de tous les coûts qu'on a quoi en fait
exactement.
C'est ça qui est important. Si on revient justement sur le point marketing dont on parlait aujourd'hui en fait juste avant ce qui est intéressant en fait, c'est que du coup, une grosse partie de la performance, donc on estime à peu près 40%, comme on disait tout à l'heure.
Ouais, on estime.
En fait, ils sont en dehors de la plateforme, finalement, Meta. Ouais. Donc, tu parlais de CRO. Le CRO, donc Conversion Rate Optimization, optimisation oui. de sa landing page, c'est être sûr d'envoyer vers les bons liens, être sûr d'envoyer vers un produit que les gens aiment, etc.
Ouais.
Tu parlais des offres aussi. En fait, qu'est-ce qu'on raconte, tu vois, qu'est-ce qu'on va mettre comme offre d'acquisition et tout. Et puis le dernier point, les emails dont on vient de parler.
Les emails, après, c'est que l'offre, c'est aussi la façon de le package. C'est juste quand tu vends ton produit, est-ce que tu précises bien qu'il y a une sorte de. Tu vois, admettons, tu vends un matelas qui est à 800 balles. Bah, est-ce que tu as bien précisé que tu as une garantie de satisfaction, que tu as les 100 nuits, les 100 nuits d'essai. Tu as tout ce qui est autour. Tu peux peut-être avoir en plus du matelas une petite couette en plus ou une thé d'oreiller. Enfin, tu vois, tout. En fait, en faire en sorte que ton offre soit plus désirable pour le client par rapport au prix qu'il va payer. Tu vois. Donc, c'est aussi ça, c'est vraiment faire en sorte que la valeur qu'il va en retirer pour le client dans sa tête, ce qu'il perçoit, sera beaucoup plus élevé que le prix qu'il va en découler. Donc, c'est ça, finalement, faire une bonne offre. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui pensent que faire une bonne offre, c'est juste faire une réduction de 20% ou 30%. Mais le problème, c'est que, comme tu le sais, quand tu fais des réductions, tu casses tes marges. Donc, c'est pas toujours viable. Et je trouve que faire une réduction de 5%, c'est pas ça qui fait que ça va déclencher l'achat.
Et c'est hyper intéressant que tu parles de ça, ça me reconnecte à une newsletter que j'ai écrit il n'y a pas longtemps pour e-commerçons. Un truc que je kiffe, c'est les biais cognitifs.
Ouais.
Et en fait, les biais cognitifs, ouais. Tu peux les utiliser pour la vente. Et notamment, il y a une étude de Google qui est sortie en 2020 qui a testé comment les biais cognitifs impactent le choix d'un client qui avait une marque préférée dans un domaine. Donc, je prends un exemple bête. Imagine, tu veux t'acheter une voiture, tu veux t'acheter un SUV, tu sais que tu préfères une BM. Est-ce que c'est 100% de chance que tu prennes une BM ? Maintenant, on te propose une alternative. Quelle est la probabilité de chance que tu choisisses cette alternative ? Déjà, rien qu'avec le fait de la proposer, c'était ce qu'ils appellent the power of showing up.
Ouais.
C'était 30% des gens qui allaient choisir l'alternative.
Okay.
Si tu utilisais les 6 biais cognitifs qu'ils mettaient en avant, tu pouvais aller jusqu'à 75% des gens qui choisissent l'alternative.
Ok, et c'est parce que tu dois jouer sur les biais cognitifs pour faire en sorte que tu choisisses l'alternative. Ouais, mais en fait, on a plein des biais cognitifs. J'avoue que c'est un sujet assez passionnant. Bah, un très connu, c'est l'ancrage. C'est comment tu fais en sorte de rendre le prix pas cher par rapport à ce qu'ils auraient pensé qu'ils allaient payer au départ, quoi.
Il y en a plein. T'as la preuve sociale. Y a tous les
preuve sociale, c'est un biais cognitif.
T'avais pas mal de choses aussi autour de un truc qui s'appelle l'heuristique catégorielle. C'est un truc, ça a l'air un peu compliqué dit comme ça. En fait, c'est juste le principe de savoir résumer son offre en deux phrases pour la faire comprendre de façon très simple à son client. Et rien que ça, je crois que ça va impacter déjà de 20% le fait de changer d'avis.
Ouais.
Tu vois. C'est monstrueux.
Mais
t'as l'urgence, la gratuité.
T'en as plein. J'avoue que si un jour je crée une marque e-commerce, je ferai vraiment très attention à ces biais cognitifs. Pas seulement dans les pubs, mais justement sur mon site, parce qu'on le sait, parce qu'on en parlait de ça tout à l'heure, c'est qu'on envoie du trafic sur un site, il faut que le site soit optimisé. Et il faut faire en sorte que sur les pages en question, il y ait tous ces inclusions des biais cognitifs basiques, hein, preuve sociale, comme tu disais, le fait de simplifier au maximum ton message, si tu as des alternatives, les proposer facilement. Là, je repense comme ça en complément élémentaire, mais le fait d'avoir peut-être des petites options assez visibles comme le fait de prendre une cure de 1 mois, 3 mois, tu peux peut-être sélectionner par défaut celle de 3 mois. Est-ce que ça convertit mieux que si tu sélectionnes par défaut celle de 1 mois ? Tu as plein de trucs à faire.
C'est méga intéressant. Si je résume un petit peu peut-être le podcast qu'on vient d'avoir ensemble,
ouais.
Grosso modo, aujourd'hui, si tu veux réussir sur Meta, tu as 60% de ta réussite qui est liée de la partie Meta, à proprement parler, 40% en dehors de Meta. Et si on s'intéresse à Meta en lui-même, finalement, tu as une partie technique qui est minoritaire dans le choix, avec des choix autour de le tracking, la structure, etc. Deuxième point, autour de ta stratégie de contenu qu'on a élaborée dans tout le podcast. Et puis, le dernier aspect, du coup, qui est en dehors de Meta, c'est aussi d'avoir une offre attractive, d'avoir un site bien travaillé, de travailler aussi tous les éléments marketing de son business.
Ouais.
Je pense qu'on a fait un vrai plan d'action, un peu complet.
C'est déjà pas mal. Ce que j'aurais peut-être dit, rajoutant en plus, dans ce que tu as dit, c'était top et tu as très bien résumé, c'est ce que j'ai dit un tout petit peu au début par rapport à la structure, c'est la campagne de testing. Je pense que la campagne de testing, elle est importante parce que si tu commences à t'amuser à faire 10 000 formats comme je te propose, il faut avoir le temps de le tester. Et une bonne pratique dans Facebook, c'est dans une campagne qui marche, c'est de pas trop la perturber, la modifier et ajouter trop de choses. Donc imagine, tu as ta campagne, elle marche bien, tu as 3 super créas. Donc généralement, les top performers, ça va être, comme je disais, ça peut être Founders Interview, ça peut être un focus sur le produit, ça peut être une créa bénéfice. Tu le mets là-dedans, aussi une créa preuve sociale ou un UGC. Donc généralement, c'est un peu toujours les mêmes qui marchent. Et imagine, tu commences à rajouter dans cette campagne-là des formats un peu que tu n'as jamais testé, donc du 3 raisons 2, des démos de produits, des comparaisons genre nous vs eux ou des avant-après, et tu te rends compte que ces formats-là ne fonctionnent pas du tout. Bah, ces formats-là, malheureusement, vont impacter la performance de ta campagne principale. Donc, c'est bien de les tester préalablement dans une campagne de testing. Et nous, comment ce qu'on recommande de la construire, c'est que tu as ta campagne de testing et tu vas avoir un ensemble de pubs qui va être un ciblage généralement large. Ça peut être du broad, ça peut être de l'intérêt vraiment large ou même une audience similaire assez large de tes clients, donc du 10% de tes acheteurs. Donc, tu fais en sorte d'avoir vraiment une audience qui est large parce que ce que tu veux, c'est trouver des créas qui ont un potentiel de scale et que tu pourras mettre dans ta campagne, ta campagne principale, où tu as des audiences qui sont assez larges. Et en fait, tu vas avoir, comme je disais, un ensemble de pubs par test. Et là, au niveau des tests, tu peux... Enfin là, nous-mêmes, on a un peu du mal à bien s'y retrouver et on est en train de retravailler notre processus de testing, mais tu peux tester les axes. Donc, tu pourras avoir un ensemble avec trois axes différents et tu les testes. Je pense pas que c'est l'idéal. Je pense que l'idéal, c'est vraiment d'avoir un ensemble par axe. Et en fait, dans chaque axe, tu vas tester des formats. Donc, par exemple, pour l'axe nous vs eux, donc, tu pourras avoir deux photos différentes qui vont être un peu mises en forme différemment, mais tu vas avoir exactement le même message où tu compares ton magnésium à celui de la concurrence. Et tu pourras avoir un format vidéo en plus et pourquoi pas un quatrième avec un UGC où tu as un créateur qui va comparer le magnésium de telle marque contre celui des magnésiums qu'on retrouve ailleurs. Tu vois, c'est une nouvelle SE. Et puis après, tu prends le format, je ne sais pas moi, preuve sociale et tu testes différents formats de preuve sociale. Tu vois, et donc, tu pourrais faire ça dans chaque ad set, mais tu te rends compte que ça devient une usine à gaz. Mais c'est à ce moment-là que ça devient intéressant parce que tu pourrais faire, je ne sais pas moi, simultanément tester en continu trois axes. Et tout ce qui marche bien, bah, tu finis par le mettre dans ta campagne de scale. Et ça, c'est un truc, je pense, qui est quand même important parce que ta structure, idéalement, tu veux moins y toucher. Enfin, tu veux pas trop y toucher, quoi. Tu veux juste vraiment faire les modifications nécessaires, donc c'est-à-dire couper les créas qui ne marchent pas et en ajouter des nouvelles qui ont des chances de marcher. Je sais pas si ça fait sens, mais...
Ouais, mais c'est important, tu remets le test au milieu de ta stratégie.
Ouais,
parce que voilà. En fait, tu ne peux pas faire des... comment dire, avoir des attentes sur quelque chose que tu n'as pas testé.
Ouais.
Parce que la réalité, c'est que tu seras toujours surpris. Le truc sur lequel tu ouais. pariais le moins est celui qui marche le mieux.
Ben, c'est ce qu'on a eu. C'est qu'on a fait, on a fait pour une marque, je ne peux pas le dire laquelle, mais on a fait un pack créa. On a construit une vingtaine de créas pour eux. Et on a plein. On disait, oh, c'est la géniale, géniale. Et c'était vraiment des très beaux axes, des très belles des créas que nous, on trouvait vraiment intéressantes et qui étaient, je ne vais pas dire hors du commun, mais en tout cas, qui changeaient de ce qu'on voyait d'habitude sur ce compte-là. Et à l'inverse, on avait des créas justement très simples. De la vie, de proposition de valeur, bénéfices. Même le client nous a dit ouais, les créas sont bien, mais voilà, on a déjà fait ces formats-là avant et voilà, c'est pas révolutionnaire. Bah, c'est celle-là qui marche. Et les autres, les nouvelles n'ont pas forcément eu tant de performance que ça, de ce que j'ai entendu. Après, peut-être que ça va changer dans quelques semaines, mais tout ça pour te dire qu'un truc qui est complexe, qui est travaillé et où tu te dis putain, ça c'est sûr, ça va marcher, c'est pas forcément le cas. Et
façon,
tu peux pas le deviner à l'avance. Voilà.
En publicité complexe et fonctionner, c'est rarement ouais. Des mots qui vont ensemble.
Non, non, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment dans l'idée en elle-même, on se disait, putain, elle est originale cette créa, elle est sympa, on n'avait jamais vu ça avant, et on pensait vraiment que ça allait mieux marcher que le reste, et pourtant, non.
Non, mais en vrai, hyper intéressant, et merci de ce point un peu plus complet sur la partie test, ouais. Parce que c'est super important.
Dernier truc que je vais rajouter là-dessus, pour bien conclure, c'est investir 10-20% de votre budget maximum. 20%, c'est vraiment quand tu es un annonceur où tu as beaucoup, beaucoup de budget et tu sais que le testing, ça fait partie vraiment intégrante de ta stratégie et tu ne peux plus faire autrement parce que tes campagnes ont tellement de budget que dès que tu fais des modifs, c'est un peu dangereux. Donc là, tu vas avoir plus de budget en testing, mais je pense avoir vraiment une campagne de testing, c'est important.
Écoute, super. On arrive vers la fin de cet épisode. Ouais. L'idée, c'est que je puisse te poser un peu les trois questions que je pose toujours à mes invités. La première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu aurais une étude de cas ou une anecdote à nous raconter sur une stratégie que vous avez mis en place par rapport justement à ce dont on a parlé dans ce podcast,
ouais.
Et qui pourrait intéresser nos internautes pour se projeter un peu.
Ouais. Bah, en fait, sur mon podcast, je partage très souvent des tests qu'on met en place pour nos clients. Donc, on essaye de faire des tests, j'aime pas le mot hors du commun, mais tu vois, qui vont changer un peu de ce qu'on fait d'habitude et de les présenter. Et un truc qu'on a fait il y a quelques mois, que je trouve sympa à partager, c'est la campagne Dynamic Broad Audiences. Donc, c'est une autre type de campagne que tu pourrais ajouter à ta structure et qui, en fait, va utiliser le catalogue Facebook et qui va récupérer les produits de ton catalogue. Je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble.
Je ne l'ai jamais testé.
Ok, jamais testé. Mais en tout cas, tu utilises le catalogue Facebook plutôt que d'avoir des créas statiques avec des images, des vidéos et des carousels qui renvoient vers une landing page. Là, c'est vraiment, tu utilises ton catalogue Facebook et Facebook va lui-même, en fait, montrer les produits qui semblent les plus pertinents.
C'est comme du shopping en fait un peu.
Ouais, c'est comme du shopping, soit en carrousel ou alors en collection. Donc collection, c'est vraiment le format où tu as une image ou une vidéo, voilà, et en dessous, t'as trois produits. Je sais pas si tu vois.
Ouais, et je crois qu'en fait, c'est un format qu'on teste sur le site en ce moment, effectivement, avec une approche un peu shopping où on a un flux, le catalogue de produits.
Exactement.
Ouais,
voilà.
Effectivement, j'avais pas le nom précis de la campagne voilà, en tête, mais c'est un modèle qu'on teste.
Et ça, c'est campagne dynamique. Donc nous, on l'appelle Dynamic Ads Broad Audiences parce que tu peux soit l'utiliser en retargeting, soit acquisition. Et en fait, celle-ci, on l'a testée en acquisition. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais concrètement, pour cette cliente-là en particulier, on avait la campagne de conversion classique où tu avais des images, des vidéos, des carousels qui allaient mettre en avant certains produits, généralement des best-sellers, en fait, toujours comme ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais même quand tu prépares une structure de campagne sur Facebook, idéalement, il ne faut pas essayer de réinventer la roue et demander au client directement, ou en tout cas réfléchir sur votre site, qu'est-ce qui se vend le mieux et le mettre en avant. Et donc, chez cette cliente-là, c'est ce qu'on faisait. On mettait ce qui se vendait le mieux, on le mettait en avant. Après, on s'est dit, pourquoi pas tester une campagne dynamique dans laquelle on va faire un truc un peu plus complexe, c'est-à-dire on va avoir la campagne dynamique et on va avoir un ensemble de produits pour chaque catégorie du site. Donc, par exemple, tu as une catégorie collant en soie, collant en je sais pas quoi, puis après, faudrait que je regarde un temps dans mes notes, il y avait les bas, pardon. Donc, tu as les bas, les collants, mais après, tu as des collants à poids, etc. Enfin, bref, tu as une dizaine de catégories différentes. Et en fait, on a fait un ad set, un ensemble de pubs par catégorie. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a subdivisé le catalogue pour chaque gamme de produits. Donc, gamme 1, c'était collant, je sais pas quoi. Gamme 2, c'était les bas, etc. Et en fait, on a eu 10 ensembles de pubs différents qui avaient un message spécifique pour chaque gamme de produits. Et on a mis un budget de 20€ par jour par ensemble de pubs par gamme de produits. Et on avait au total 10 ensembles. Et en fait, on a voulu tester finalement quels vont être les ensembles de pubs qui vont le mieux fonctionner. Donc, autrement dit, quelles sont les gammes de produits qui vont le mieux se vendre. En sachant que les audiences étaient toutes des audiences larges. Donc, l'idée, c'était vraiment de donner à Facebook une audience large et lui donner une catégorie de produits et voir avec laquelle il a les meilleures capacités de générer un CPA qui est le plus bas possible pour la cliente. Et en fait, la campagne de conversion, elle avait un ROS plus ou moins à 2,5 en moyenne. Et cette campagne-là, on a quand même eu un ROS à 3,5 simplement en faisant ce changement-là. Donc, on n'a pas changé l'offre. On a repris les créas statiques et on a fait des collections, tu vois. Et on a juste mis en avant les gammes de produits qui faisaient sens par rapport à l'image en question. Donc, si on mettait en avant, un bas, on allait mettre en dessous l'ensemble de produits avec uniquement les bas. Si on mettait en avant un collant, on allait juste mettre en avant les collants et ainsi de suite. Et tu vois, bêtement faire ça, ça permet d'avoir des bons résultats et d'avoir un ROS qui était supérieur à ce qu'on avait sur la campagne de conversion. Et pourtant, l'offre n'a pas changé et on a juste changé un peu le type de campagne et la façon de la gérer.
Sur de l'acquisition pure.
Acquisition pure.
C'est quand même assez impressionnant parce que tu vas chercher un point de renta sur ce test-là,
voilà.
Juste avec un type de campagne qui te demande moins d'énergie du fait qu'elle soit particulièrement dynamique ou plus de ça.
C'est ça. Bon, là, sur le coup, au début, ça demande un peu d'énergie parce que tu as tes 10 ensembles de publicités. Et donc, du coup, au début, tu dois un peu piloter, tu dois voir un peu ce que tu vas regarder. Mais généralement, tu vas attendre une semaine, tu laisses dépenser sur chaque ensemble. Et tout ce qui est genre deux fois ton CPA, tu le coupes. Tout ce qui est en dessous de ton CPA, tu le gardes. Et ce qui est un peu au-dessus, tu le laisses encore un peu tourner pour voir si ça finit par descendre. Mais je me rappelle qu'à la fin, on s'était retrouvé avec 3 ou 4 ensembles qui marchaient bien. Et puis, comme tu l'as deviné, ceux qui marchent bien, tu finis par augmenter les budgets au fur et à mesure. Donc, tu vois, c'est un peu des trucs un peu plus techniques, manuels, mais qui peuvent être intéressants quand tu as vraiment une gamme de produits qui est assez élargie et dans laquelle tu ne sais pas vraiment finalement quels vont être les produits qui vont le mieux fonctionner.
Voilà. Ok. Bah écoute, merci pour le partage de cette anecdote, c'est hyper, hyper intéressant. Est-ce que tu aurais des contenus ou des recommandations justement pour aider nos auditeurs e-commerçants à se former et à améliorer, apprendre de nouvelles choses quoi.
Ouais, moi j'en ai quand même plusieurs. Je vais juste te donner ceux que moi je consulte et qui quand même inspirent mes contenus, en tout cas qui me donnent des idées pour des choses à tester chez nous ou même, comme je disais, pour créer des contenus. Tu as Dara Dene pour tout ce qui est stratégie créative, elle est assez connue. Donc elle a une chaîne YouTube où elle parle de strat créative principalement, donc très forte. Donc on pourra le mettre dans les notes de l'épisode. Tu as ensuite Social Selling, donc mes copains chez G7 Media. Donc, c'est une agence canadienne qui est spécialisée en pub Facebook. Donc ils ont Social Selling, ils ont également Nopenoplay, donc ils ont deux podcasts sur la pub Facebook. Nopenoplay, je pense, il est un peu plus débutant et Social Selling, c'est un peu plus un podcast où ils vont aller plus loin dans la technique, donc eux, ils sont, enfin, c'est plutôt un podcast que je trouve avancé sur Facebook Ads. Ensuite, je trouve que même sur LinkedIn, tu as quand même quelques créateurs qui font des très bons contenus. Donc, il faut les identifier et puis après, ben, les suivre et voir ce qu'on trouve avec eux. Et enfin, tu as deux Américains que moi, j'aime bien. Enfin, de blogs et podcasts américains, tu as Common Thread Collective. Je ne sais pas si tu connais.
Ouais, donc, je connais, ouais.
Très e-commerce, mais ça parle de Facebook Ads, du Google Ads, d'e-commerce. Et tu as Digital Marketer. Donc, pareil, très e-commerce, très Facebook Ads, un peu de Google Ads. Donc, des trucs avancés, mais moi, ce que j'aime toujours un peu moins avec c'est les trucs américains, c'est que pour transposer leur stratégie au marché français, il y a toujours un petit écart.
Ah ouais, c'est pas forcément exactement le même marché et les techniques américaines ne marchent pas toujours en France, ou souvent elles peuvent marcher, mais avec X années de décalage.
C'est ça, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Mais après, Dara Dene, qui est sur le coup, c'est une chaîne, c'est une chaîne YouTube américaine, je trouve que niveau créa, t'as pas mal de trucs qu'elle dit, qui franchement, on peut clairement l'appliquer sur nos comptes, et même des fois, elle explique vraiment précisément comment elle fait du testing créa. Comment elle fait son, enfin, quel est son process en fait pour construire un contenu de 0 à 1, c'est-à-dire de l'idée à la production. Elle t'explique également comment décliner tes meilleurs créas. Donc elle a quand même pas mal de bons conseils qui nous ont beaucoup servi, donc je la cite clairement comme inspiration.
Et d'ailleurs, en termes d'inspiration, on parlait tout à l'heure d'avoir énormément de contenus différents. Il y a un truc qui est vachement pratique, c'est la bibliothèque publicitaire Facebook qui te permet d'aller voir ce que tes concurrents ou ce que n'importe quelle entreprise qui fait de la pub sur Facebook crée en termes de contenu. Est-ce que tu as des marques e-commerce que tu suis particulièrement ou que tu trouves particulièrement fortes en termes de stratégie de contenu?
Ouais, moi j'ai cité My Variation, ils sont vraiment très bons. Donc moi je trouve que eux c'est masterclass, donc ils ont... C'est vraiment l'exemple, quand tu vas sur leur bibliothèque, tu vois que pour un même axe, ils vont le décliner en plein de formats différents. Tu vois qu'ils vont avoir plein de professionnels sur leur créa, donc c'est déjà assez inspirant. Tu vois qu'ils vont avoir des formats aussi que tu ne vois jamais ailleurs. Et même pour un format en particulier, ils vont également le décliner. Donc admettons qu'ils trouvent un format 3 raisons 2. Bah, simplement, ce qu'ils vont faire, c'est changer soit la couleur de l'image ou soit changer les raisons. Tu vois. Donc je trouve qu'ils sont plutôt intelligents dans ce qu'ils font. Après, tu as 900K, ils sont assez bons. Mais eux, c'est plutôt créa vidéo, créa UGC. Vraiment, j'ai plein de petites marques. Kabaya, ils sont assez bons. Nutripure, c'est un client qu'on accompagne et je suis content de ce qu'on fait comme travail pour eux. Donc je trouve que voilà, il y a pas mal d'inspiration qu'on peut retrouver pour ceux qui s'intéressent. Et voilà.
Ok, super cool, merci. Et puis dernière question, quels outils tu utilises le plus souvent sur Meta Ads, justement pour surbooster Meta Ads ou utiliser au max de ses compétences et de ses possibilités?
En fait, il y a deux outils qu'on utilise beaucoup, mais c'est plutôt pour de l'analytics et de la data. Donc tu as Motion, donc avec un M et pas un N, donc c'est Motion App. Et en fait, cet outil-là te permet d'analyser mieux les performances de tes créas et surtout de communiquer avec des rapports clairs, des rapports plutôt clairs et préconfigurés à ton équipe créa les meilleurs formats. Globalement. Et en fait, tu as plein de rapports préconfigurés qui sont plutôt pas mal. Tu peux avoir un rapport sur les top créa, un rapport sur les UGC, un rapport sur les hooks, sur les scroll stoppers, sur les vidéos. Enfin, tu as pas mal de choses comme ça. Et puis, tu peux faire tes propres rapports avec tes propres indicateurs, avec tes propres formats. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, tu as Supermetrics que tu combines avec Data Studio pour créer des rapports Data Studio un peu comme toi, tu le souhaites, avec les graphiques que tu veux, les segments que tu veux. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça coûte un peu d'argent, mais ça vaut le coup, je trouve, pour analyser mieux la performance de ces campagnes. Et ensuite, tu as 4Play, que nous, on aime bien. C'est en gros, si tu vas enregistrer dans 4Play toutes les créas que tu trouves dans la bibliothèque publicitaire de Facebook, et tu peux les enregistrer selon des catégories, comme d'habitude. Hein, c'est ça. Tu peux en faire ta bibliothèque, genre, admettons que tu es un annonceur... tu veux avoir des créas plutôt orientées sur la mode, tu vas les mettre dans 4Play, dans le dossier mode. Tu peux aussi les catégoriser selon le format, le type de contenu, genre founders interview, bénéfices, etc. Et puis après, je dirais Notion quand même. C'est quand même là-dessus qu'on documente pas mal nos tests. Donc tu vois, ces quatre-là sont pas mal. Voilà.
Bah écoute, super. Je mettrai de toute façon tous les liens des contenus dont tu m'as parlé, des outils, etc. Tout simplement dans le récap de l'épisode, peut-être en notes. En général, je mets tout dans le récap. C'est plus simple, je mets tout au même endroit.
Top.
Dernière question, où est-ce qu'on peut te contacter?
Ok. Moi, j'aurais dit sur LinkedIn, je pense que c'est le mieux. Donc, je ne sais pas si tu pourras mettre le lien vers mon profil LinkedIn. Insta, pour ceux qui sont sur Instagram. Donc, pareil, on peut donner le lien. Et bien sûr, sur mon site web, on retrouve mon blog, mais également le lien vers le podcast. Donc, je pense que là-dessus, ça peut aider. Et enfin, pourquoi pas pour ceux qui recherchent une agence social ads, donc spécialisée en pub Facebook et Instagram, dhsdigital.eu pour nous contacter. Voilà.
Super. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, Danilo, pour tous ces éclairages sur tous les sujets dont on a abordé aujourd'hui et sur le fait que finalement, la créa n'est peut-être pas si centrale Et si indispensable et génératrice de performance que ça dans Meta Ads.
Même avec toi. Bon, je pense que voilà, on a quand même pas mal démontré tout ça et c'est un plaisir de parler avec toi. Je trouve que le podcast était hyper intéressant et je me ferai un plaisir de relayer autour de moi. Trop et donc, cool. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me poser sur LinkedIn ou sur Insta, ce serait cool de discuter.
Top. Salut.
Allez, salut.
Ciao.